Vie des livres, votre rendez-vous littéraire vous est présenté par la librairie La Folle Avoine à Villefranche-de-Rouergue.
Bonjour à toutes, bonjour à toutes. C'est l'idée livre, votre émission littéraire du samedi à 18h sur CFM et en rediffusion le mardi à 12h35. Vous pouvez nous réentendre en podcast sur le site de CFM et nous faire part de vos commentaires, n'hésitez pas. Donc, c'est les vacances et aujourd'hui nous avons décidé de faire une émission jeunesse pour occuper nos petits chéris. Et le mieux c'est qu'ils lisent, donc nous avons Monique qui a lu avec moi 3 livres, un peu pour tous les âges. Quand même, on va commencer à 10 ans aujourd'hui. Bonjour Monique.
Bonjour Fred.
Et Joël qui va continuer sa chronique avec un livre pour les parents, très, ma foi très très bien.
Et que vous avez lu tous les deux.
Voilà, exactement. Nous on a pris de l'avance. Donc nous allons vous parler d'abord d'un livre de Stéphane Michaka, qui est édité chez PKJ, qui s'appelle Cité 19, et que Monique, avec son cœur d'enfant, a lu et aimé.
Oui, voilà. Alors, cœur d'enfant, pas tout à fait, parce que ça s'adresse quand même aux grands ados. Donc, juste un petit mot sur Stéphane Michaka, qui écrit des romans jeunesse, des scénarios pour le théâtre et la télévision, et des pièces radiophoniques, qui sont diffusées sur France Culture. En 2010, il adapte Le Château de Franz Kafka, et en 2014, il signe l'adaptation de 3 concerts fiction mis en musique par l'Orchestre National de France et diffusés sur France Culture. Dracula, Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad et Alice et Merveille, qui est une réécriture.
Il s'attaque à du lourd. Hein,
ah oui, 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 tout à fait. En plus de ça, il est lauréat de plusieurs prix littéraires, je ne pourrais pas les citer tous. Hein. Il anime des ateliers en collège et lycée, participe à des résidences d'écrivains dans des établissements scolaires en Île-de-France. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'il a écrit justement Cité 19. Alors Cité 19, c'est un roman totalement inclassable parce qu'il a la particularité d'entremêler des genres littéraires. Ça tient à la fois du roman historique, de la science-fiction et du polar. Alors dit comme ça, on se demande d'où ça va partir. Donc, l'héroïne, c'est une jeune fille de 17 ans, Faustine, qui vit seule avec son père, qui est gardien du musée d'Orsay. Et donc, elle a toujours, elle est très, très imaginative, elle a toujours vécu dans ce musée-là. Mais depuis la disparition de sa mère, alors qu'elle n'avait que 5 ans, sa mère était elle-même conservatrice du musée, elle a appris à se débrouiller toute seule. Et se débrouiller toute seule, ben, à l'aube de l'adolescence, c'est pas souvent très simple. Donc, un peu mi-ange, mi-démon, elle cherche à la fois sa place, son identité, elle sait pas trop, elle est un peu androgyne, enfin bon, voilà. Et c'est dur, elle vit un petit peu dans la rue, elle fait pas toujours des bonnes rencontres. Et un matin, on l'appelle pour qu'elle vienne reconnaître le corps de son père qui a été trouvé mort au bas de la tour Saint-Jacques. Donc, elle y va, mais elle doute. Elle doute parce qu'elle ne le reconnaît pas vraiment. Et donc, à partir de là, elle décide de partir à la recherche de son père. Elle va rencontrer dans les couloirs du métro Cité un étrange personnage, un dandy, à l'œil de verre, quelque peu inquiétant. Et puis, ben, je vous dirai pas pourquoi, parce que ni comment surtout, mais le tout est qu'elle se retrouve catapultée 150 ans en arrière, dans le Paris du Second Empire, en pleine mutation, parce que ce sont les grands travaux du baron Haussmann. Voilà. Donc là, elle vit là, elle devient Faustin, donc un jeune garçon.
Ouhou.
Ouhou, oui, voilà, qui va écrire pour le petit journal tout en enquêtant sur à la fois la disparition de son père et des meurtres en série. Donc elle va côtoyer tous les milieux de ce Paris-là, et d'ailleurs les descriptions historiques sont très très bien faites hein, sur cette période-là, c'est très très riche. Et elle côtoie donc les milieux huppés, la grande bourgeoisie, autant que les petites gens et puis les bas-fonds les plus sordides. Donc voilà, on évolue là-dedans et puis tout à coup, la deuxième partie du roman, eh bien là, on se plonge carrément dans un univers futuriste, celui de la CITE19, qui est une plateforme internationale qui a des pouvoirs technologiques quelque peu effrayants. Donc là, on va de surprise en surprise, mais c'est pareil, je vous en dirai pas plus. Et la construction de ce roman, elle est très habile quand même. Hein. Vraiment, ça tient et ça tient en haleine jusqu'au bout, parce que justement, l'auteur ne s'enferme jamais dans aucun des 3 genres. Et je trouve que c'est ça qui fait sa force. Donc, ça interroge aussi sur les questions d'identité, Faustin, Faustine, sur les rapports sociaux, sur la domination, la liberté, et surtout dans la dernière partie, quels sont les pouvoirs, entre guillemets, de toutes les technologies modernes, jusqu'où on peut aller avec ça, qu'est-ce qu'on en fait. Donc là, ça rentre un petit peu dans les rêves, en fait, des personnages, et ça m'a fait penser à la science des rêves de Michel Gondry.
Et on peut aussi le conseiller, voilà. Si les jeunes partent en vacances à Paris, c'est l'occasion de voir pour de vrai les travaux d'Haussmann, etc. C'est, voilà. Puisque ça se passe à Paris, c'est pas mal.
C'est pas mal. Et moi, j'ai trouvé
Et le musée d'Orsay,
voilà. Ouais. Et j'ai trouvé très riche cette description de cette période historique-là. Voilà.
En tout cas, tu en as très bien parlé, parce que tu m'as donné envie de le lire.
Ben
surtout
oui, moi
pour le 19e.
Voilà, moi, j'ai bien aimé. Et à l'été, ce que j'ai oublié de dire au début, c'est que son père et elle étaient passionnés par le 19e siècle, justement.
Ouais, bah, voilà. Super, très intéressant.
Donc c'est très, c'est plein d'imagination, c'est très agréable.
Il manque Dieu.
Ah, cité 19 de Stéphane Michacard, donc. Et alors, nous avons dans un autre registre, nous avons un petit livre qui s'appelle Lettres à pattes et à poils et à pétales, qui est un petit livre aux éditions Thierry-Magnier et qui a un charme indéniable. C'est une correspondance. Ce sont des correspondances. Alors, ça commence par des courriers du cœur. Alors, je vais vous dire exactement, c'est un dictyoptère, un petit insecte. En fait, un dictyoptère est un cafard qui écrit au courrier du cœur tenu par la coccinelle sur BuzzMag. Et c'est très drôle. C'est comment dire, très renseigné sur la vie des insectes et leurs coutumes, sur leurs antennes. Enfin, il y a des noms scientifiques. Et le problème de ce pauvre dictyoptère, c'est qu'il est amoureux d'un insecte dont je ne vous dévoilerai pas l'identité et qui cherche par tous les moyens à la séduire, et la coccinelle va lui donner de bonnes idées, et ça se termine pas toujours très bien d'ailleurs dans ce cas-là, mais bon, on vous laisse. Alors c'est plein d'humour,
voilà,
c'est très très fin, ouais, et très drôle. Et ensuite, alors après cette correspondance, on passe à un autre animal qui s'appelle la chèvre de Monsieur Seguin. Vous allez me dire, c'est pas très original, mais il arrive à en faire quelque chose de très oui. sympa, surtout dans le contexte politique actuel, parce que la chèvre écrit à son maître que c'est très bien la sécurité, mais que ça gâche un peu la liberté. Donc il y a tout un discours, je dirais, philosophique.
Oui, au second degré, hein. Il faut chercher au second degré, voilà.
Avec la chèvre, c'est toujours la fin qui compte. Si elle se sauve, c'est bien.
Voilà. Alors je vous dirais, non, mais là, elle est très très bien, elle s'en est très très bien sortie, et c'est elle qui tient qui a les cartes en main, on dira. Donc voilà. Ensuite, on a. Alors ça, c'est très drôle. C'est la lettre du moustique à la fenêtre qui refuse de s'ouvrir. Hein. Comment se battre contre les portes ouvertes, on dira. Et ça se termine par les lettres du chien-chien à sa mémère. Alors je vous le conseille parce que vraiment c'est super drôle. C'est à lire à partir de 10 ans, accompagné ou pas. Je pense que les parents peuvent y trouver leur compte aussi. Voilà.
Et ça renvoie au grillon d'Aline Payet tous les dimanches matin à 7h.
Peut-être bien, oui. Et alors nous avons un dernier livre qui peut... Alors pour les ados qui ne lisent pas, ça peut être un très bon moyen de les amener à la lecture. C'est une bande dessinée, en fait, qui a été écrite par Mario Montaigne, qui est né en 1980 à La Réunion, qui a fait des études de dessin à Étienne et au Gobelin. Et elle travaille comme illustratrice et auteure de bande dessinée. Et elle anime elle fait aussi du dessin animé à partir de ce livre qui s'appelle « Tu mourras moins bête », qui est édité aux éditions Delcourt. On en est au tome 4. Ça explore des thèmes scientifiques et la science en général. Alors, par exemple, il y a la science des rêves, les dinosaures, Interstellar, les chercheurs qui essayent des médicaments, les contaminations par divers microbes quand on va aux toilettes, la science des paix, pour être plus triviaux, les rêves, j'ai peut-être déjà dit, le vol parabolique, etc. Et c'est des espèces de petites bandes dessinées qui explique avec pareil un appui scientifique très très
c'est très documenté,
très documenté. Oui. Faut pas croire que c'est stupide, mais il y a un humour voilà.
C'est la réponse à toutes les questions imposables.
Voilà, exactement. Et bon, pour l'avoir testé chez les adolescents, ça plaît beaucoup. Ils viennent nous voir avec les livres pour poser d'autres questions et on peut regarder donc justement sur Arte, sur le site. Alors je vais vous donner exactement l'adresse du blog, c'est http://tumourras-bête.blogspot.com et je vous le conseille, c'est vraiment drôle, ça dure 5 minutes et c'est à explorer avec les ados. Pour finir, on va écouter justement ce Stéphane Michaka que Monique nous a présenté avec brio et qui est un homme qui fait beaucoup de choses et on a trouvé sur France Culture un extrait de Alice et Merveille qui a été enregistré en public le 14 janvier sur un texte de Stéphane Michaka librement inspiré de Lewis Carroll.
Comment t'appelles-tu ?
Alice.
Mort, Alice. À pleines dents. Ça fait grandir.
J'hésite.
Pourquoi ?
J'ai peur de devenir folle.
Ça, tu n'y peux rien. Tout le monde est fou ici. Tu es folle. Je suis fou.
Comment savez-vous que je suis folle ?
Tu l'es forcément, sinon tu ne serais pas venue ici.
J'ai souvent vu un chat sans sourire, mais... Un sourire sans chat, c'est la chose la plus curieuse que j'ai vue de ma vie.
Pour suspendre le temps, il ne faudra ni clé en or, ni sourire de chat, ni lapin blanc et sa reine semblante, mais l'entre-deux d'une valse lente. Pour suspendre le temps, tu garderas intact au cœur. Tu iras en un lieu ou pas, d'un pic m'arrêtera ta course. Mon cœur se ressource dans l'entre-deux d'une valse lente. Il tintera mieux qu'une toquante pour suspendre le temps. Il teintera mieux qu'une toquante dans l'entre-deux d'une valse lente.
André Elena Dernière, donc parmi les 200 romans qu'il a publiés, il a fallu en sélectionner quelques-uns. Lui-même a tenté de faire une espèce de comédie humaine avec les compagnons du destin, donc il a arrêté à 8 tomes qui sont vraiment très intéressants. Mais bon, j'ai choisi Les clients du Central Hotel, qui est un peu le concentré de son histoire, l'histoire d'Elena pendant l'occupation et à la libération. Les clients du Central Hotel, c'est tous ces paumés, ces fuyants, hein, ils arrivent dans ce Central Hotel qui se trouve à Perpignan, accueilli par Madame Poteau, qui est l'atelière. Et bon, il y a tous les cas de figure. Il y a le collabo, il y a le résistant, il y a l'allemand qui est là, le juif qui est sous une fausse identité. Et
c'est des femmes.
Mais des femmes, oui. Il y a Conchita dont le mari est dans la résistance. Il y a surtout aussi Marguerite dont le mari est prisonnier et qui est venu travailler au Central Hotel pour vivre, hein, puisqu'elle avait plus rien. Donc tout ce microcosme là, c'est un huis clos et ils vont avoir toutes les contradictions du moment, puisqu'il il faut vivre, il y a le marché noir, il y a la résistance, puisqu'il y a Ramon qui dès la première page tue un Allemand et il est complètement désespéré. On le mettra en image tout à l'heure avec la chanson du Cheruyo, le vin de Marsala. Ça y arrive deux fois dans le livre d'ailleurs, à Ramon, ce résistant qui quitte pour sauver sa peau d'une part et d'autre part pour faire sa guerre. Il est confronté à des ennemis. Et il faut dire que l'exergue des clients du Central Hotel, c'est Quelle connerie la guerre, Barbara. Hein, donc c'est un livre qui a été publié en 59. Et je le mettrai à côté dans ma bibliothèque du refus de Ludovic Massé dont j'ai parlé. Le refus, donc c'était le refus de prendre parti. Là aussi, Elena est un peu au-dessus du central. Il regarde ces personnages de haut. Et je le mettrai aussi à côté du livre de Jean Mecker, dont j'ai parlé rapidement il y a quelque temps, c'est-à-dire nous avons Les Mains Rouges, c'est un livre sur l'après-guerre, juste au moment de l'épuration. Il y a quelques scènes sur l'épuration aussi dans les clients du Central Hotel qui sont assez extraordinaires. Hein. Donc, Monique, tu avais relevé donc la poésie de ce livre. Hein. J'avais dit que Elena avait commencé par écrire et publier des poèmes. On le retrouve proche de la nature. Ce qui il y a dans cet ouvrage-là et qu'on retrouve partout, c'est la pluie. Celui-là, il est lumineux. C'est l'été. On est au mois d'août et la nature explose et on la voit avec les bombes. D'ailleurs, on la voit un petit peu partout, aussi bien dans les prés que près des maisons.
Et la grande lucidité par rapport à l'humanité aussi, il est très. Il est voyant, quoi. Je veux dire, on en parlait l'autre jour, c'est les points de vue. Il est parfois au-dessus, effectivement, mais il arrive très bien à intégrer les personnages et à prendre la parole à leur place dans le livre. Et justement, je parlais de cette scène où Ramon tue un Allemand.
Oui.
Où à un moment, on passe de la tête, de ce qui se passe dans la tête de Ramon à ce qui se passe dans la tête de l'Allemand sans trop savoir qui parle, en fait. Oh, et voilà. Il arrive à les rendre quelque peu pareil, finalement, entre l'Allemand et lui, il y a pure la différence, elle n'existe pas dans le.
Oui, là, il y a des propos sur la guerre qui sont très pacifistes. Hein, c'est donc quelle connerie la guerre, ça revient, quelle saloperie la guerre à plusieurs reprises. Et il est aussi dans la tête de Lily Marlène.
Oui.
Lily Marlène, une prostituée qui ne sait plus où se mettre, où se trouver, et qui réfléchit à sa situation, qui finalement elle va être
finie. Mais ce qui est émouvant dans ce livre, c'est que les salauds sont jamais vraiment des salauds et les gentils sont jamais vraiment des gentils. Et je crois que c'est ça qui en fait la grande.
Oui, mais c'est le trouble de cette époque-là, j'imagine, dans les esprits et.
Ben c'est une période assez terrible. Hein. Je crois qu'on en a. Enfin, j'en ai beaucoup parlé. C'est lors de mes chroniques, surtout avec la dernière, donc avec Ludovic Massé. Ça se passait pas loin. Ludovic Massé, dans le refus, parle de Perpignan, de la libération de Perpignan. Donc André Léna, dans les clients du Central Hotel, il parle pas de façon aussi dramatique dans des femmes tendues, hein, il le signale, mais Massé en avait parlé comme s'il en avait été témoin. Lui, André Léna, cette période-là, il était à Perpignan. Donc, je vous présente Udger Royo, le soldat de Marsala, qui met en scène deux situations du livre de Les clients du Central Hotel.
Nous étions au nombre de mille, venus d'Italie et d'ailleurs. Garibaldi dans la Sicile nous conduisait en tirailleurs. J'étais un jour seul dans la plaine, quand je trouve en face de moi un soldat de 20 ans à peine qui portait les couleurs du roi. Je vois son fusil se rabattre, c'était son droit, j'arme le mien. Il fait 4 pas, j'en fais 4. Il vise mal, je vise bien. Ah, que maudite soit la guerre qui fait faire de ces coups-là, qu'on verse dans mon verre du vin de Marsala. Il fit demi-tour sur lui-même. Pourquoi diable m'a-t-il raté? Pauvre garçon, il était blême. Vers lui je me précipitais. Oh, je ne chantais pas victoire, mais je lui demandais pardon. Il avait soif, je le fis boire. D'un trait, il vida mon bidon. Puis je l'appuyai contre un arbre. et j'essuyais son front glacé. Son front sentait déjà le marbre, s'il pouvait n'être que blessé. Ah, que maudite soit la guerre qui fait faire de ces coups-là, qu'on verse dans mon verre du vin de Marsala. Je voulus panser sa blessure, j'ouvris son uniforme blanc. La balle, sans éclaboussure, avait passé du cœur au flanc. Entre le drap et la chemise, je vis le portrait en couleur d'une femme vieille et bien mise, qui souriait avec douceur. Depuis j'ai vécu Dieu sait comme, mais tant que cela doit durer, je verrai mourir le jeune homme et la bonne dame pleurer.
Nous vous avons présenté aujourd'hui donc Stéphane Michaka, Cité 19 aux éditions PKJ, pour partir en vacances à Paris. Lettres à pattes et à poils et à pétales, parce que j'avais pas dit, mais il y a aussi une rose qui se confie à son jardinier. Et j'ai pas dit l'auteur, c'est Philippe Le Chermailleur, qui a fait de nombreuses choses aussi. C'est un homme multifacette. Et il a, Lettres à pattes et à poils, a été primé de nombreuses fois. Et on vous le conseille chaleureusement. Tu mourras moins bête, tome 1, 2, 3, 4. Professeur Moustache étale sa science. Avec Marion Montaigne aussi, à ne pas rater. Et pour finir, nous vous lirons un petit message pour vous donner le goût de lire pendant les vacances, car les livres sont ces compagnons de l'âme à portée de main, de cœur, de sieste, de métro, de jour et de nuit. Le bébé le sait très tôt et sait en réclamer le bienfait encore. Et beaucoup plus tard, à l'heure des embouteillages, il saura comment faire d'un matin brumeux un instant d'humanité. Joël nous a parlé des clients du Central Hotel, de André Héléna. Un très bon livre qu'on vous conseille aussi. Bonnes vacances, si vous y êtes. Et au revoir à tous.
Lis des livres, votre rendez-vous littéraire vous a été présenté par la librairie La Folle Avoine à Villefranche-d'Orouergue.